Il s'affiche aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
Et c'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphisme, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Terrain Vague. Je suis une nouvelle fois à l'atelier de Oz, Arcane et Camille Adra que je reçois aujourd'hui.
Bonjour, bienvenue.
Bienvenue dans cet atelier, même si vous n'êtes pas avec nous. Camille Adra, du coup, que je reçois dans cet épisode des Terrains Vagues. Camille, je te connais peu, donc pour moi, ça va être vraiment un exercice d'apprendre à te connaître et à te découvrir à travers cet épisode.
Ouais.
Et comme je le fais à mon habitude, hein, même si que je connaisse ou pas, on va parler un peu de ton parcours, comment t'es arrivé là, tes influences, etc. Enfin, okay. de ta démarche artistique, voilà, un petit tour d'horizon de ta petite personne.
Ok.
Alors, dis-nous un petit peu qui tu es, comment tu t'appelles.
Alors, je suis Camille Adra, artiste peintre. Donc moi, j'ai toujours dessiné, depuis
ouais.
tout petit. Je dessinais beaucoup, 2 heures par jour, tout le temps.
Ah ouais.
Et
dessiner, pas que du coloriage.
Ouais, vraiment du dessin. Okay. Je détestais colorier, c'était vraiment la ligne.
Ah d'accord.
Ouais. Okay. Des personnages, souvent.
Ok.
Et petit à petit, j'avais envie de faire un métier qui était dans le domaine de l'artistique, mais à la fois pas totalement. J'avais cette idée-là quand j'étais jeune.
D'accord.
Et puis, donc, j'ai choisi des études d'architecture que j'ai faites à Montpellier, que j'ai validées.
Ouais.
Donc, le Master 2. Et c'est vrai que ma mère était peintre. Donc, en fait, elle aimait mes dessins. Et puis, sur des expositions où elle postulait, elle m'a dit tiens, vas-y, essaye toi aussi.
Ok.
Et j'ai été pris.
Ah.
Donc ça, c'était au Sens des Arts.
Excellent.
Je pense que j'étais en 3e ou 4e année d'architecture à Paris, donc j'étais hyper hyper impressionné, hyper content, hyper excité d'avoir été sélectionné. Donc j'ai fait un CV pour la première fois. J'ai créé ma page Facebook pour ça.
Exprès. À l'occasion, ouais.
Ouais, ouais.
T'avais quel âge, parce que t'étais jeune?
J'avais 8 ans et demi. Hein.
Ah ouais?
Non, c'est pas vrai.
Non, non, tu parlais d'archi tout à l'heure, donc voilà. T'avais la vingtaine
J'avais, je pense, ouais, fraîchement la vingtaine.
Ouais.
Et sur mon CV, j'avais mis un bonhomme qui faisait ce geste-là. Bon, vous pouvez pas voir, mais...
Oui, mais le bonhomme qui hausse les épaules comme ça avec les mains en l'air. Genre,
rien, quoi.
Ouais.
Bah
oui, parce que t'avais rien à mettre. En fait.
J'avais rien à mettre.
Si ce n'est tes études, en fait.
Oui, j'ai mis ça. Voilà, je suis en école d'archi, voilà. Et donc j'ai exposé là-bas, et puis une chose en amenant une autre, j'ai commencé à faire un peu plus d'expos pendant mes études d'archi. Alors mes parents me disaient, mais tu vas quand même finir tes études? Et je leur disais, oui, bien sûr. Et puis j'ai validé mes études, mais voilà, déjà, ça commençait à être un peu plus sérieux au niveau des expos.
Mm-hmm. Ça a été un tremplin un peu, cette expo à Paris, là? Ça a déclenché des choses, en tout cas.
En moi, en tout cas, ça a déclenché... je me sentais un peu plus pertinent, quoi. Je me disais, il y a du retour. J'étais hyper content, quoi, hyper motivé. Donc après, c'était... Alors, au début, c'était des bonhommes. À cette époque-là, c'était des bonhommes vraiment à la ligne, avec aucun brouillon préalable, mais... Je faisais des personnages entremêlés de manière très dense, en noir et blanc, vraiment très, très, très dense. Et petit à petit, je me suis mis à la couleur, je me suis mis à aller graffer au Verdançon, à utiliser des bombes de peinture.
Ok, j'allais y venir. Est-ce qu'il y a eu une petite étape graffiti?
Il y a eu une étape graffiti, c'était encore aussi pendant mes études.
Hein. Mm-hmm.
Donc, et puis après, même je suis passé sur la toile avec les bombes aussi aérosol.
D'accord.
Et puis je suis passé par l'acrylique, les feutres, les Posca, enfin.
Ouais, t'as essayé plein d'outils,
quoi. Ouais, vraiment, du pochoir.
Ah oui.
Je faisais des jus d'acrylique aussi dans les fonds de mes toiles. Enfin, moi, ce que j'appelle des jus d'acrylique, l'acrylique très dilué avec de l'eau.
Ok.
Et j'explorais comme ça, quoi. Et donc, j'ai fini mes études. Et puis, j'ai bossé quelques temps en tant qu'archi. Et je sentais que, voilà, la création n'était pas au rendez-vous de mon point de vue, enfin, c'est quand même très nomenclaturé.
Ouais. Beaucoup de codes, beaucoup de règles.
Beaucoup de règles économiques, très régies par l'économie, malheureusement. Mm-hmm. Donc ça c'était un peu...
Bah t'étais un peu bridé, quoi, finalement.
J'étais bridé. Et c'était pas vraiment en phase avec ce qu'on nous a appris à l'école d'archi, même si on nous apprenait aussi à faire des choses réalistes. Mais voilà, donc j'étais un peu déçu de ce côté-là. Et c'est vrai que j'avais l'impression que je pouvais pas mettre à bien ma créativité en faisant de l'architecture, mais que par contre, je pouvais continuer à faire de l'architecture dans mes toiles.
Ok.
Donc j'ai aussi beaucoup, beaucoup dessiné d'architecture, beaucoup peint d'architecture. Autour de ces personnages qui se sont un peu desserrés, qui ont laissé place à d'autres choses, à de la perspective. Donc voilà, mes études d'archi ont beaucoup influencé aussi, évidemment, mon travail.
Comprends mieux maintenant.
Oui.
Je comprends mieux.
Et petit à petit, j'ai laissé tomber l'archi, quoi. Je suis allé à fond dans la peinture.
Ok.
Donc mes parents, au début, étaient un peu flippés. Quand ils ont vu qu'il y avait du répondant et que ça fonctionnait,
ils ont été un petit peu rassurés.
Ma mère était ravie de me voir exposer.
Ta mère artiste, mais elle avait un métier à côté ou elle était vraiment dédiée?
À la base, elle était ergothérapeute.
Ok.
Et puis, elle est tombée malade. Et puis ensuite, elle peignait quand elle était ergothérapeute. Mm-hmm. Et donc ensuite, elle était à plein temps dans la peinture, quoi.
D'accord. Donc elle savait, elle connaissait un peu le milieu.
Elle connaissait un peu le milieu, ouais. Non pas qu'elle l'adorait, mais elle le connaissait. Elle était très discrète. Elle était super, enfin bref.
Donc du coup, voilà, les parents un petit peu rassurés, et tu as pu te lancer quand même avec peut-être l'esprit un peu plus léger.
Oui.
Là-dedans, parce que j'imagine que comme tout artiste qui se lance, bon encore, toi tu avais un bagage et des études, donc tu aurais pu te remettre s'il avait fallu là-dedans.
Ouais.
Mais se lancer et se dire, bon bah allez, vas-y, je vais vivre de mon art, c'est pas facile, quoi.
Non, c'est pas facile. Puis tu en vis, y a des années où j'en vis, il y a des années où j'en vis pas, quoi.
Ah ouais,
c'est très... C'est très montagne russe, quoi. Mais bon, moi, ça me va. J'ai pas une vie qui est chère. Je vis fichement, des choses simples. Et puis, les années où ça gagne pas, ben... J'espère avoir de côté des années où ça gagne. Et puis voilà, mais j'essaye de pas trop prendre de commandes. Voilà, je m'écoute beaucoup, quoi.
D'accord, ok.
Ce qui est...
Donc plus, enfin voilà, c'est-à-dire que si tu...
Je travaille mon univers,
oui,
mon
voilà,
fil rouge,
ouais, vraiment.
Mais des choses qui me sont personnelles et qui pour moi ont du sens,
mm-hmm.
Bien sûr, je peux accepter des commandes, mais voilà, il faut voir à quel point c'est dirigé, à quel point je peux...
Oui, parce que du coup, dans les projets dans lesquels tu bosses... projets dans lesquels tu travailles, est-ce que t'as besoin d'être... complètement libre, 100%.
De plus en plus, parce que une fois que, enfin, maintenant que j'ai mon univers et mon fil rouge que je travaille, c'est dur de m'en défaire, quoi. C'est vraiment quelque chose qui m'est personnel,
mm-hmm.
qui me touche et qui touche aussi les gens. Et souvent, en plus, on m'appelle pour ça.
Okay.
Donc j'ai pas vraiment besoin de m'en détourner.
D'accord.
Parce qu'en ayant l'habitude de le faire, ben c'est ça que je montre.
Mm-hmm.
Et les gens m'apprécient pour ça et c'est ça qu'ils veulent. Donc.
Et est-ce que tu réponds des fois, tout en gardant ton univers vraiment là, mais est-ce que tu réponds des fois à des commandes où c'est plus, tu vas avoir une thématique à laquelle répondre ou en tout cas une direction artistique.
Oui.
Qu'on t'impose entre guillemets. Ça t'arrive de.
Mais comme je te dis, souvent, on vient me chercher pour ce que je...
Pour ce que tu fais, ouais.
Pour ce que je fais. Et après, évidemment, voilà, je ne suis pas rigide. Hein.
Non,
je sais écouter les clients et bien sûr, je sais m'adapter. Mais voilà, c'est toute proportion gardée, quoi.
Ouais, d'accord. Donc, du coup, je comprends mieux, effectivement, les effets de l'architecture dans tes œuvres. Je vois des compositions qui sont colorées, effectivement, mais hyper denses, hein, quand même. Il y a énormément de détails.
J'essaie de m'en défaire, mais c'est pas évident.
Mais pourquoi t'en défaire, du coup ?
Parce que j'essaie d'aller de plus en plus vers l'essentiel, tout simplement. Après, ça passe des fois par des choses très denses, mais c'est toujours, j'essaye d'apporter quelque chose de nouveau, de redigérer ce que j'ai déjà acquis,
mm-hmm.
à chaque toile, en permanence, de douter, en fait. Moi, je pense que le travail de peintre, c'est principalement de douter.
Ah bah oui.
De douter de tout, de ce qu'on fait, de jamais être dans son petit confort tranquillou. Voilà, moi, je doute. Je me pose un million de questions sur les toiles, J'y pense le soir, j'y pense la nuit. Je doute en permanence, quoi, de tout, tout le temps.
Ouais, mais
je vais sur des sites de streaming, des fois, je doute que je vais trouver du streaming. Non, mais c'est débile.
Ah ouais, on en
voix,
est là, quoi.
Ouais, il y a une voix dans ma tête qui me dit, mais est-ce que tu vas... C'est inconscient, mais c'est là.
Oui, mais je pense que ça vous habite, hein, parce que pour en fréquenter quand même quotidiennement des artistes,
ouais.
Je vois que c'est quelque chose que vous avez là, c'est... Tu peux pas trop t'en détacher, quoi, finalement.
On est complètement
ouf. Puis ça déteint
ouf,
un peu. Ouais, vous êtes un peu ouf. Et ça déteint sur le reste, après.
Oui, oui, oui.
Parce que du coup, voilà, tu dis, je vais sur un site de streaming, je sais pas si je vais trouver le truc.
Voilà,
quoi.
Voilà, c'est le doute permanent. Mais, mais c'est ça qui fait avancer, qui est de remettre en question. Donc,
complètement.
Donc voilà, sur ce côté de densité, là, si tu regardes mon travail, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé par rapport
au
début.
Je regardais justement, je suis allée faire un tour sur ton, sur ton site, et je regardais par rapport aux... Bah, à... environ 10 ans peut-être, peut-être un peu moins. Effectivement, on voit que c'est un peu plus épuré. Il y a un peu moins de détails, mais il y en a quand même.
Des fois, je peux pas m'empêcher. Tu peux pas non plus te défaire de...
Ah bah non, de toi-même. Hein, voilà. Après, voilà. Et même, alors les persos aussi, ils ont évolué, le trait, etc.
Il y en a carrément plus.
Ah voilà.
Là, dernièrement, il y a plus... Enfin, si, il y en a quelques-uns. Il y en a eu un ou deux sur les dernières toiles, mais ils ont disparu. Les gens ont disparu.
Les personnages.
Okay. Alors maintenant, c'est plutôt des milieux aquatiques, des horizons un peu plus ouverts, des choses.
Des paysages.
Des paysages. Ça touche. Alors, où avant, ça touchait à la figuration libre. Moi, j'ai grandi avec des peintres comme Combas, Di Rosa, enfin comme inspiration. J'ai pas grandi avec eux. Mais voilà, il y avait des dessins de Mobius aussi chez mes parents, des affiches, pas des originaux. Mais c'est des choses qui m'ont beaucoup habité. Et puis, donc, dans cette optique-là de densité, ça faisait vraiment sens. Et petit à petit, voilà, je vais plus vers quelque chose que je qualifierais de surréaliste.
Mm-hmm.
Donc, je me suis mis à la peinture à l'huile également. Arnaud, qui a rejoint mon atelier il y a 3 ou 4 ans maintenant, je crois, m'a beaucoup...
Il y a 4 ans.
Voilà. Il est là au fond, il nous
au revoir,
dit
Arnaud.
Au revoir,
bisous.
Arnaud.
Je repasse tout à l'heure.
Ok, à toutes.
Adieu. Et donc lui, il m'a aussi beaucoup, beaucoup inspiré, quoi. Et techniquement, il m'a montré des choses.
Ah bah, j'allais y venir parce que c'est quelque chose que j'ai abordé avec eux, donc avec Arnaud, Arcane et Oz.
Ouais.
Le travail en atelier.
Ouais.
Qui est prégnant finalement chez vous tous.
Ouais.
Parce que bah voilà, nous on parle ici dans cette émission en tout cas d'art urbain, etc., d'art dans la rue, dans l'espace public. Mais j'ai toujours à cœur de dire que bah vous travaillez en atelier, vous ne travaillez pas que sur des murs, vous travaillez sur des toiles ou sur d'autres supports, que vous évoluez en galerie, ou en tout cas que vous exposez dans des lieux. Ça participe à montrer aux gens ce que c'est aussi ce courant un peu, alors un peu fourre-tout qu'on appelle du coup le street art, et tout ça, tu vois. Mais du coup, cette place de l'atelier qui est hyper importante pour vous, les artistes, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté Tu parlais de technique, là, justement.
Eh ben, ça t'apporte quatre yeux supplémentaires sur ce que tu es en train de faire. Et donc, ces deux visions-là, moi, je les trouve hyper précieuses. Que ce soit techniquement ou même sur le fond du travail, c'est hyper intéressant. Et puis, on est là, on travaille chacun de notre côté, on entend les mouches voler, et puis... Il y en a un qui prend sa pause et l'autre vient le rejoindre et on fume une petite cigarette ensemble et on peut discuter de nos projets. Non, c'est très agréable le travail d'atelier à plusieurs. C'est calme, c'est paisible.
Et vous nourrissez chacun de...
On s'internourrit.
C'est ça. Vous vous nourrissez des expériences de chacun.
Exactement.
Des chemins de vie vraiment.
Ouais, les chemins de vie.
C'est bon, les chemins de vie.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais je veux dire, voilà, de vos expériences, alors que ce soit dans le boulot, c'est-à-dire dans l'art, etc., mais vos vies respectives aussi, qui forcément ont un impact sur ce que vous...
Ah bah ouais, c'est sûr.
Sur ce que vous faites.
Non, c'est sûr, on est là les uns pour les autres. C'est très bien. Bon. Très bien d'être plusieurs. Je conseille à tout le monde. Soyez plusieurs.
Soyez plusieurs dans vos ateliers.
Et dans votre tête également, comme moi.
Voilà. Il y a beaucoup de gens dans sa tête.
Ouais.
Tu parlais des inspirations tout à l'heure. J'ai entendu Combas, Di Rosa. Effectivement, quand on voit ce que tu fais, et notamment peut-être ce que tu faisais il y a quelques années, peut-être plus, on voit ces inspirations. Comment on arrive à s'inspirer sans refaire la même chose? Je te pose la question à toi. C'est vrai que c'est pas une question que j'ai posée aux autres, mais et comment t'arrives à te détacher peut-être aujourd'hui justement des inspirations que t'as pu avoir il y a quelques années en arrière.
Alors, j'avais commencé à dessiner avant de les connaître.
Bien sûr.
Et puis c'est à l'école d'archi qu'on m'a dit, ah mais ce que tu fais, ça ressemble à un combat, c'est dit Rosa. Je dis mais c'est
marrant.
Ben ouais. Et puis bon, j'avais honte à moi, je ne les connaissais pas, mais à l'époque, et puis je suis allé voir, et puis ils m'ont, c'est vrai que il y avait quelque chose, quoi.
Ah bah oui.
Alors eux, la figuration libre, ça part aussi de l'idée que il y a plein de choses qui sont des inspirations dans la vie du quotidien, les jouets, les dessins animés, la publicité, enfin cette espèce de société de l'image dans laquelle on vit. Donc ça, je pense que j'ai été fortement, ça fonctionnait vraiment avec ce que je faisais. Et bon, il y a des époques où peut-être ce que je faisais, ça se rapprochait d'eux. Hein. Même à un moment, une galeriste, elle m'a dit, mais cette toile-là, je ne sais pas si je vais la prendre, ça ressemble un peu trop à Combass.
Ah oui.
Moi, j'étais hyper déçu. Ça m'avait vraiment touché, mais bon, quand je la regarde aujourd'hui, je me dis, en fait, je pense qu'elle n'avait pas compris.
Ouais.
Mais c'est vrai que ça, il y avait des ressemblances.
Complètement.
Et puis, comme je disais, tu vois la chose, tu la digères, tu la... Donc il y a des choses que j'ai récupérées dans mon travail et puis que j'ai redigérées par ma création moi aussi. Mais et puis maintenant j'ai plus aucun... C'est la question se pose même plus, ce que je fais c'est tellement différent que voilà, mais c'est précieux pour moi. Ces personnes-là ont été... Mobius oui. aussi, c'était quand j'étais gamin, je regardais les BD de Mobius chez moi, c'était extraordinaire quoi.
Le point de départ de...
Un des points de départ.
un des points de départ.
Ouais.
On arrive à la moitié de cette émission,
oui.
Donc on va diffuser un petit morceau
oui.
que tu nous as proposé. Crankbean, et le morceau s'appelle Connaissez de face. C'est un peu particulier comme nom, mais...
Ouais.
Et on revient juste après.
À tout à l'heure.
Days on end.
on est de retour avec Camille Adra dans son atelier. Ce petit morceau de Krangbin connaissait de face. Bon, je sais pas pourquoi ce nom.
Moi non plus.
Je pense que voilà, toi non plus, tu sais pas. C'est quoi? C'est ce que tu écoutes en ce moment? C'est
Krangbin, ça fait quelques années que je les écoute. Un peu à répétition. Moi, quand j'ai des musiques qui me plaisent, je suis un peu... Alors, des fois, Arnaud, il me dit, bon, celle-là, on l'a déjà écouté 50 fois. Faudrait peut-être arrêter, mais c'est vrai que j'ai... La musique marque aussi des moments de ma vie, donc je suis très nostalgique par rapport à ce que j'écoute. Et puis voilà, c'est vraiment, ils ont des mélodies qui me transportent.
Quoi. Oh là là.
Ouais. C'est, puis ça, je trouve que ça colle avec mon univers qui est de plus en plus surréaliste. Voilà, je voyage, j'espère faire voyager les gens, donc... Donc j'espère que ça vous a plu.
Bah, j'espère aussi
si
que
vous
ça
connaissez
a
pas Krangbin aussi, ils ont fait des playlists sur YouTube où c'est pas eux qui chantent, mais ils ont fait des... Il y en a 15 volumes. Krangbin volume 1, 2, 3, 15. Et il y a des artistes aussi qui sont très très agréables à écouter.
Voilà, okay.
Quand vous travaillez ou quand vous relaxez.
Bah voilà une belle recommandation et ça enrichit la playlist des morceaux proposés par les artistes que j'ai reçus et qui est... Très éclectique.
Exactement.
On a de tout.
Ouais.
Je voulais te poser une question par rapport à ton univers et comment tu transposes ça entre la toile et le mur, parce que tu fais des murs aussi. Enfin, tu fais des fresques.
Je fais des fresques aussi. Les dernières fresques que j'ai faites, c'était à Carnon et à Moggio. Enfin, non, les dernières fresques que j'ai faites, c'était à Montpellier, à Gambetta, où j'ai dessiné sur des...
Sur les blocs à côté du tram, là.
Voilà, exactement. Ouais. Et alors à Carnon par exemple, bon ben là voilà, on parlait de la commande tout à l'heure. Là c'était une commande où il fallait que ça parle un petit peu quand même de
la ville,
de Carnon. Mm-hmm. Mais comme moi j'ai grandi une partie de ma vie à Carnon et que ça m'a très imprégné, enfin j'en suis très imprégné et qu'il y a beaucoup d'horizons et de mer dans mes toiles et c'est très aquatique. Ben mm-hmm. Voilà, c'est pareil, j'ai pas eu à faire tant d'efforts quoi.
Ouais. C'était déjà là, quoi.
Montrer des visuels et puis ils étaient directement partants, donc voilà, c'était très fluide. Et donc là, à Carnon, j'ai travaillé en trompe-l'œil, par exemple.
Ok.
Donc j'ai repeint des briques sur le mur, comme s'il était brisé, j'ai ouvert sur mon univers.
Ah, excellent.
Donc voilà, ça me plaît. Je pense que ce concept-là de trompe-l'œil, je vais pouvoir le refaire si on me sollicite. Oui, parce que je trouve que voilà, ça... On est entre la réalité, enfin ça me plaît énormément.
Bah, c'est une sorte d'ouverture un peu entre, on part de la réalité et on arrive dans ton univers.
On casse les murs quoi, on casse les barrières.
On casse les barrières et les codes. Et du coup, je vois que dans les murs que tu fais, il y a quand même vachement de détails aussi finalement.
Oui, il y a vachement de détails.
Bah, disons que... Le mur ne t'empêche pas de faire la même chose que tu fais.
Non, et puis parfois même les gens me disent mais arrête, c'est bon quoi. Je dis mais non là c'est pas fini, c'est pas bien.
Il me manque encore des trucs.
Mais c'est bon machin, et puis après ils voient le résultat final, ils disent ah oui d'accord, c'est différent. Je dis bah oui c'était pas fini.
Mais, ce qui est cool c'est que ça amène des lectures aussi. Différente parce que je pense que c'est le genre d'œuvre où tu passes une fois, tu vois certaines choses,
ouais.
Puis tu repasses, puis tu t'arrêtes et tu vois d'autres
ça me plaît.
Choses aussi.
Que les gens ne soient pas lassés de la chose. Enfin, j'espère qu'ils ne sont pas lassés.
Bah, je pense qu'il y a assez d'éléments dans ce que tu fais pour qu'on puisse voir à chaque fois des choses nouvelles. Quoi.
J'aime qu'il y ait ce côté-là hypnotisant.
Mm-hmm.
On regarde la toile et on ne peut pas s'en détacher. On est dans le monde que je propose. C'est ça qui me plaît, c'est de toucher les gens comme ça. Quand on me demande, mais qu'est-ce que tu essayes de représenter? Qu'est-ce que tu... La dernière fois, il y a une copine qui est passée à l'atelier. Il y avait une de mes toiles que j'avais terminée qui était accrochée au mur. Et elle l'a regardée pendant 5 minutes. Et oh, ça va et tout. Elle me disait, ouais, je suis dans
happé.
Le truc. Ouais, je suis happé. Et là, je me dis, c'est ça. C'est ça qui a du sens, c'est ça que je veux faire. Je veux que les gens ils puissent s'extraire aussi de leur...
Du quotidien.
Et c'est à ça que je pense que sert l'art, hein, tout simplement. C'est le meilleur moyen de communiquer, de faire ressortir ce que moi je capte du monde. Et les peintres surréalistes, ils ont fait ces œuvres-là à des époques où le monde n'allait pas très bien. Et je pense que c'est évidemment le cas aujourd'hui. Plus qu'à jusqu'à certaines périodes moins qu'à d'autres, mais bon, c'est...
On a toujours besoin d'un moment d'évasion et de contemplation, je pense.
Voilà, vu que c'est le caca, autant partir voyager un petit peu ailleurs. Et moi aussi, je pense à être heureux grâce à la peinture. Sans ça, je deviendrais fou, quoi.
Et oui. Et du coup, toi, de ce que je comprends quand tu nous parlais un petit peu de ton parcours tout à l'heure, t'as commencé finalement par la toile, en tout cas le.
Ouais.
Et comment t'es arrivé au muralisme?
Eh ben,
Est-ce que c'est quelque chose que tu avais envie de faire?
Ah oui, ça m'attirait. Bah, parce que déjà, je le voyais. Mm-hmm. Je le voyais et ça me plaisait beaucoup. Et puis, un jour, je suis allé au Verdanson avec de la peinture qui allait pas du tout. Elle puait, je sais plus à quoi.
Elle avait croupi?
Ouais, c'était des vieux pots de peinture de mon père. Ah, à base de trucs affreux, là, ça sentait. Mais j'ai fait comme ça des carrés dans le Verdanson et que j'ai rempli avec mes personnages, avec puis même ça a encore changé mon travail parce que ça amène d'autres gestes, ça amène une puis un rapport quand même à l'œuvre qui est différent quoi. Mm-hmm. Tu peux quand un mur est marqué, c'est très ça peut être très colossal, tu peux être d'autant plus pris dans l'œuvre, voilà. Donc ça, c'est intéressant.
Et je sais que tu fais de très petits aussi, puisque j'ai...
C'est tout mini.
J'ai vu l'expo miniature du collectif Figure au 411.
Oui.
Et je pense que tes œuvres étaient les plus petites, peut-être. Alors, on a reçu Quentin DMR il y a quelques semaines dans Terrain Vague. Et on parlait de cette expo que moi, j'ai trouvé génial, le concept. Le concept est vraiment trop, trop cool.
Ouais.
Et quand j'ai vu les tiennes, c'est là où j'ai dû prendre la petite loupe qu'il y avait pour voir, parce que les tiennes, elles étaient vraiment, vraiment, minuscule. Vraiment minuscules. Ouais, ouais. Quoi. Pourquoi cette envie de faire encore plus petit que...
Parce que pourquoi pas? C'est intéressant comme exercice. Non, c'est vrai qu'on est parti avec les collègues de Figure autour de ce thème-là et c'est une sorte de trip, quoi. Et puis alors moi, je me suis dit jusqu'à quel point je peux faire petit.
Tu peux faire petit, ouais.
Ah ouais, ouais. Donc il y en avait qui faisaient... les plus petites que j'ai faites, elles faisaient 0,5 cm par 0,5 cm.
C'est ce que nous a dit Quentin, tout à fait.
Et donc je travaillais avec une toute petite mine des stylos d'architecte.
Ah ouais.
Comme quoi ça a pas servi à rien.
Ah, tu vois. Hein.
Ah, bah ouais. et donc voilà, c'était fabuleux comme exercice parce qu'aussi je passais rapidement d'une œuvre à l'autre.
Ah oui.
Ce qui est très agréable parce que là je m'envoie des peintures à l'huile de 1m30 par 1m62.
Ah oui.
J'y passe des mois et des fois c'est vrai que voilà, c'est agréable de varier
les formats, les
travaux.
Et le temps que tu passes
tout à fait
dessus. Pour replacer pour nos auditeurs, c'est une exposition donc de miniatures.
Ouais.
De toutes petites œuvres, donc toi c'était 0,5
par 0,5 pour la plus petite.
Ouais, voilà, la plus grande, je sais plus combien elle faisait, c'était quelques centimètres vraiment.
Ouais,
vraiment,
5 par 4, je crois la plus grande, ou 6 par 4.
Voilà, c'était une expo vraiment très 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 chouette. Ah ouais. Très très.
J'en ai invité plein d'amis. Arnaud aussi a participé.
Arnaud a participé. Oz aussi. Ouais. Et Adrien Da Silva, qu'on va recevoir bientôt au micro de Terrain Vague, aussi était là. Non, c'était un concept vraiment vraiment très cool.
Ouais.
Il nous reste quelques minutes. On parle un peu de ton actu.
Mon
qu'est-ce
actu.
Qu'est-ce qu'il y a à venir chez Camille Adra?
Alors. Je vais faire l'affiche du Worldwide. Je fais le graphisme pour eux cette année.
Festival de 7.
Festival de 7.
Du coup.
De musical.
Yes.
Très chouette. Des très belles personnes. Non, belle rencontre. Et je suis ravi qu'ils m'aient sollicité.
Belle opportunité.
Belle opportunité. Et puis ça rentre vraiment dans le cadre de ce que je fais. Mm-hmm. Donc tout le monde est content. Donc ça, c'est du 1er au 7 juillet. Vous allez bientôt voir l'affiche qui va sortir. Et je suis exposé au réservoir à 7 à l'occasion de l'exposition Liquide, qui regroupe, on est 11 artistes au total. Et donc là, je présente 6 nouvelles peintures à l'huile, 2 nouveaux dessins et 3 toiles qui sont un peu plus anciennes, pour montrer l'évolution. Et cette exposition-là, elle est visible jusqu'au 1er juin. Et ensuite, c'est terminé. Alors, allez-y vite. Et moi, je ferai une dernière après-midi de présence ce samedi. Donc, le 25 mai, mm-hmm. 14h30, 18h30, 45 quai du Bosc. Voilà.
Et c'est un lieu à voir aussi, le réservoir, j'en profite pour le dire, parce que
c'est un beau lieu.
Et bah, si par exemple vous êtes à 7 pendant le K-Live, on a reçu Christelle, par exemple, du K-Live aussi, avec sa collaboratrice Justine, si je ne me trompe pas. Donc si il y a des gens qui nous écoutent, qui sont au Calive, bah, qui passent te faire un petit coucou.
Passent me faire un coucou, ça fait plaisir.
Samedi au réservoir, sera l'occasion de voir du coup l'expo.
Bah oui.
De te voir toi.
Exactement.
De te poser des questions.
Hyper intéressant.
Exactement. Et ouais, de voir ce lieu. Est-ce que tu sais quels sont un petit peu les autres artistes qui exposent en même temps que toi?
Oui, alors on est beaucoup. Hein. Il y a Johan Fournier, Cléa Lala. Il y a Federico Distrucco, c'est un photographe. Pardon, je les ai pas tous.
Mais quelques noms comme ça.
Il y a une artiste. Oui, non, c'est une belle expo.
Ok. Donc,
clairement.
Ben on vous encourage à y aller et peut-être que Line Up passera une petite tête.
Ça serait sympa.
Samedi 25.
Ça me ferait plaisir.
On arrive à la fin de cet épisode.
Oui.
Merci beaucoup Camille de m'avoir reçu dans ton atelier. C'était très cool. Voilà, j'ai fait tout le monde dans cet atelier.
Très sympa. Ben voilà, ça y est.
Je vous ai fait tous les trois. C'était très sympa. Merci et à très bientôt en micro Terrain Vague.
Prenez soin de vous. À bientôt.
Ciao, ciao.
Salut.
Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
Et c'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est pas beau ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graffiti, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.